Quand donc chacun des êtres qui devait coopérer à la création du temps fut arrivé dans son orbite appropriée et qu'ils furent devenus vivants, avec des corps maintenus dans des liens animés et qu'ils eurent appris la tâche qui leur était imposée, ils se mirent à tourner dans l'orbite de l'autre, qui est oblique, qui passe au travers de l'orbite du même et qui est dominée par lui. Les uns décrivirent un cercle plus grand, les autres un cercle plus petit. Et ceux qui décrivaient le plus petit tournaient plus vite, et ceux qui décrivaient le plus grand plus lentement. Aussi, à cause du mouvement du même, ceux qui vont le plus vite semblaient être rattrapés par ceux qui vont plus lentement, tandis qu'en réalité, ce sont eux qui les rattrapent. Car ce mouvement faisant tourner tout leur cercle en spirale, du fait qu'ils s'avançaient en même temps dans deux directions opposées, faisait que le corps qui s'éloigne le plus lentement de ce mouvement qui est le plus rapide de tous semblait le suivre le plus près que les autres. Or, pour qu'il y eût une mesure claire de la lenteur et de la vitesse relative suivant laquelle ils opèrent leur huit vers évolution, le Dieu alluma dans le cercle qui occupe le second rang en partant de la Terre une lumière que nous appelons à présent le soleil, pour qu'il éclaira autant que possible tout le ciel et que tous les êtres vivants, à qui cela convenait, puissent participer du nombre en l'apprenant de la révolution du même et du semblable. C'est ainsi et dans ce dessein que furent engendrés la nuit et le jour, qui forment la révolution du cercle unique, le plus intelligent de tous. Ensuite le mois, après que la lune, ayant parcouru son circuit, rattrape le soleil. Enfin l'année, lorsque le soleil a fait le tour de sa carrière. Quant aux autres planètes, les hommes, à l'exception d'un petit nombre, ne se sont pas préoccupés de leur révolution, ne leur ont pas donné de nom, et quand ils le considèrent, ils ne mesurent pas par des nombres leur vitesse relative. Aussi peut-on dire qu'ils ne savent pas que ces courses errantes, dont le nombre est prodigieux et la variété merveilleuse, constituent le temps. Il est néanmoins possible de concevoir que le nombre parfait du temps remplit l'année parfaite au moment où ces huit révolutions, avec leur vitesse respective mesurée par le circuit et le mouvement uniforme du même, ont toutes atteint leur terme et sont revenues à leur point de départ. C'est ainsi, et pour ces raisons, qu'ont été engendrés ceux des astres qui, dans leur course à travers le ciel, sont assujettis à des conversions, afin que cet univers fût le plus semblable possible à l'animal parfait et intelligible, et imitât sa nature éternelle. À la naissance du temps, le monde se trouvait déjà construit à la ressemblance du modèle. Mais il ne contenait pas encore tous les animaux qui sont nés en lui. Il lui manquait encore ce trait de ressemblance. C'est pourquoi Dieu acheva ce qui restait, en le façonnant sur la nature du modèle. Aussi, toutes les formes que l'intelligence aperçoit dans l'animal qui existe réellement, quelle qu'en soit la nature et le nombre, le Dieu jugea que ce monde devait les recevoir les mêmes et en même nombre. Or, il y en a quatre. La première est la race céleste des dieux. La deuxième, la race ailée qui circule dans les airs. La troisième, l'espèce aquatique. La quatrième, celle qui marche sur la terre ferme. Il composa l'espèce divine presque tout entière de feu afin qu'elle fût aussi brillante et aussi belle à voir que possible, et la modelant sur l'univers, il la fit parfaitement ronde et la plafonna dans l'intelligence du meilleur pour qu'elle le suivît dans sa marche. Il la distribua dans toute l'étendue du ciel afin qu'elle en fût véritablement l'ornement par la variété répandue partout. À chacun de ces dieux, il assigna deux mouvements, dont l'un se produit uniformément à la même place, parce que le dieu a toujours les mêmes pensées sur les mêmes objets, et dont l'autre est un mouvement en avant parce qu'il est dominé par la révolution du même et du semblable. Quant aux cinq autres mouvements, ils furent complètement refusés à ces dieux, afin que chacun d'eux acquît toute la perfection dont il est capable. C'est pour cette raison que naquirent les astres qui n'errent pas, animaux divins et éternels qui tournent toujours uniformément à la même place. Quant à ceux qui errent et sont soumis à des conversions, ils ont été faits comme nous l'avons exposé précédemment. Pour la Terre, notre nourrice, enroulée autour de l'axe qui traverse tout l'univers, Dieu la disposa pour être la gardienne et l'ouvrière de la nuit et du jour. La première est la plus ancienne des divinités qui sont nées à l'intérieur du ciel. Mais les cœurs de danse de ces dieux, leur juxtaposition, leur retour ou leurs avances dans leurs orbites, lesquelles, dans les conjonctions, se rencontrent, et lesquelles sont en opposition, derrière lesquelles et en quel temps ils se dépassent les uns les autres et se cachent à nos yeux, pour réapparaître ensuite et envoyer aux hommes incapables de raisonner des craintes et des signes de ce qui doit arriver par la suite, exposer tout cela sans en faire voir les modèles imités, ce serait prendre une peine inutile. En voilà assez sur ce sujet, mettons fin ici à notre exposé sur la nature des dieux visibles et engendrés.